Bonjour et bienvenue dans Le Monde Devant Soi, le rendez-vous géopolitique de Slate. Je suis Christophe Caron et je suis en compagnie de Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate. Bonjour Jean-Marie.
Bonjour Christophe.
Et d'Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales. Salut Alain.
Bonjour Christophe.
Vous le lirez partout en commentaire, c'est un discours sur l'état de l'Union offensif, quasiment une allocution d'entrée en campagne que Joe Biden a prononcé ce jeudi 7 mars devant le Congrès américain. Normalement prévu pour présenter le programme de l'année aux élus des deux camps, il fut l'occasion pour le président en place de faire mentir celles et ceux qui s'inquiètent de sa capacité à enchaîner avec un second mandat et de dresser le bilan de sa politique. Et il faut dire que sur le plan économique, ce bilan est bon, avec une inflation maîtrisée, un chômage bas et une augmentation des salaires réels. Mais un bon bilan ne suffit pas forcément à gagner une élection, surtout quand on se présente face à un homme qui se soucie aussi peu des faits que de la vérité. Ainsi, Joe Biden s'est montré particulièrement combatif à l'endroit de Trump et des MAGA, soulignant son attitude envers Poutine, son âge, pas si éloigné du sien, 77 ans contre 81, et des dangers qu'il fait peser sur la démocratie américaine. Joe Biden l'a compris, il y a un espace à occuper dans le marché des idées et 2024 sera la campagne de la défense des libertés civiques et surtout de la défense du droit à l'avortement remis en cause par la Cour suprême. Il n'ignore pas non plus la question de l'immigration, ciment du camp républicain. Sur le plan international, enfin, on le verra, Biden a réaffirmé son soutien à l'Ukraine tout en prenant ses distances avec le président français Emmanuel Macron et il a envoyé des signaux en faveur de Gaza. Bref, un discours réussi à en croire la réaction de Trump qui a dénoncé juste après sur son réseau social, Truth Social, un discours clivant, colérique et plein de haine. Alors Jean-Marie, Alain, je vous propose de commencer par cette affirmation de Joe Biden. Il a dit « J'ai hérité d'une économie qui était au bord du gouffre. À présent, notre économie est littéralement enviée par le monde entier. 15 millions d'emplois ont été créés en 3 ans, c'est un record, et le taux de chômage est au plus bas depuis 50 ans. » C'est vrai ça, Jean-Marie, il a réussi Joe Biden ?
Oui, il a réussi à un point que, évidemment, qui fait envie en Europe, notamment sur le taux de croissance. Mais c'est vrai qu'aux États-Unis, ils ont les GAFA, donc ces géants qui tirent au fond la croissance. Et donc, le bilan de Joe Biden sur le plan économique est traditionnellement, comme le disait Bill Clinton, l'économie commande les scrutins. Là, ce ne sera manifestement pas tout à fait le cas parce qu'il y a à la fois, vous l'avez évoqué, le grand problème de l'immigration qui est vraiment une pomme de discorde et un abcès de fixation que Trump, évidemment, fait tout pour entretenir parce qu'il sait que Joe Biden est mal à l'aise là-dessus et que c'est une source d'impopularité. Et puis, il y a aussi les slogans à l'emporte-pièce de Donald Trump qui continuent à séduire une partie non négligeable de l'électorat. Ce à quoi il faut faire attention, c'est que ça n'est plus le même. On pense à Donald Trump première manière et il y a un certain nombre de gens, y compris en Europe, qui disent bah, « Finalement, qu'est-ce qu'il a fait ? Pas grand-chose. Il a plutôt amélioré ceci, cela. Puis, il y a eu les accords d'Abraham au Proche-Orient. » Enfin, donc, qui oublie l'essentiel, c'est-à-dire les liens de Donald Trump avec la Russie, ce qui devrait nous préoccuper aujourd'hui principalement. Mais ils oublient aussi que Donald Trump a fait travailler des équipes, alors que la première fois il avait été élu et non préparé, qu'on disait même qu'il ne croyait pas possible sa victoire et que ça lui était un peu tombé dessus. Là, cette fois, il se prépare dans un sens qui devrait alarmer les Américains, parce que c'est dans un sens qui n'est absolument pas un progrès des libertés, et qui est au contraire la définition ou la redéfinition d'un pouvoir exécutif fort, plus fort qu'il n'est aujourd'hui, avec des tendances très clairement autoritaires. Et donc, c'est vraiment à la fois un des enjeux de la campagne électorale et probablement une des grandes préoccupations qui serait celle des Américains si Donald Trump venait à l'emporter. Donc voilà, on est devant ce paysage qui est quand même alarmant à plus d'un titre.
Alain, Jean-Marie a souligné la présence des GAFA aux États-Unis, mais c'est pas les GAFA qui font que l'économie va aussi bien. 15 millions d'emplois, on les trouve pas que dans les secteurs technologiques, il y a aussi une réindustrialisation du pays.
En économie, pour juger le bilan Biden, il faut regarder deux choses. Il y a la conjoncture, et la conjoncture, elle est excellente. Elle n'est pas bonne, elle est excellente. Emploi, investissement, taux de croissance, bourse, la bourse aussi. Enfin, tous les indicateurs sont bons, y compris celui qui peut-être compte le plus d'après les sondages, c'est-à-dire l'inflation. Mais l'inflation, ça veut dire quoi ? C'est l'évolution des prix. Et c'est là un des points faibles du bilan qu'a dressé Joe Biden. C'est que sa première année de mandat a été marqué par une explosion de l'inflation, une explosion notamment des prix alimentaires à la consommation, mais aussi du prix de l'essence, mais aussi du prix des médicaments, mais aussi du prix des restaurants. Et les Américains n'étaient plus habitués à l'inflation. Nous avons traversé quasiment 25 à 30 ans sans inflation.
Je vous interromps, Alain, pour vous donner deux chiffres. En juin 2022, l'inflation était à 9,1 et elle est retombée à 1,8 cette année, ce qui est quand même une réduction assez sensible.
Le problème de cette réduction, c'est qu'il faut attendre qu'elle soit dans les étiquettes au supermarché, sur les étiquettes sur la note de restaurant et sur les étiquettes sur le prix des médicaments et du médecin. Et elle ne l'est pas encore. Et le souvenir de l'inflation devient un thème de débat économique. Combien de temps reste-t-on sur le souvenir de l'inflation ? Pour le moment, c'est le souvenir de l'inflation qui a marqué les Américains. C'est vrai que les salaires ont augmenté entre-temps et que les salaires vont dépasser la hausse des prix légèrement, légèrement seulement, mais quand même vont dépasser la hausse des prix. Mais il faudra attendre encore plusieurs mois pour qu'on s'habitue aux nouvelles étiquettes et pour que le sentiment que la monnaie a retrouvé son pouvoir d'achat s'installe dans la population. Ce n'est pas encore le cas. Et je trouve que c'est très intéressant. Ça pourrait arriver en Allemagne aussi, où l'inflation est restée assez élevée, plus que dans les autres pays de la zone euro. Donc vous avez ça. Il est jugé au fond là-dessus, plus que sur la conjoncture. Ça peut se dissiper naturellement. Ça peut disparaître. Et vous avez un autre élément pour porter un jugement. Le deuxième élément, c'est que Biden... c'est un homme courageux. Il a pris l'économie qui n'allait pas mal, contrairement à ce qu'il dit. C'est pas vrai que l'économie américaine était au bord de la faillite. Par exemple, le président Trump avait surfé sur les 8 années de rétablissement économique opérées par Barack Obama. On l'oublie, on n'en parle jamais d'ailleurs, au lendemain de la crise de 2008 qui avait ravagé les États-Unis. Donc c'était ça, les doubles mandats Obama, plus l'assurance santé, bien entendu, que Biden a amélioré. Mais Biden, lui, a investi sur les 25 années qui viennent. Il est le premier président américain à avoir réussi à faire passer un plan de plusieurs dizaines de milliards d'infrastructures, de rénovation des infrastructures américaines sur 10 ans. D'ailleurs, le secteur des BTP marche à plein. Mais les ponts, les aéroports, les ports, tout ce qui donnait souvent aux États-Unis, c'est ce mélange très bizarre de tiers-monde et de futurisme qu'il y a aux États-Unis, avec des routes complètement cabossées, et voilà. Eh bien, lui, il est le premier. Tout le monde en a parlé de faire ce grand plan sur les infrastructures. Obama n'a pas réussi à le faire. Trump s'en est vanté constamment. Il n'a rien fait, pas un cent dans l'investissement de l'avenir, ni dans l'éducation, ni dans la technologie, ni dans les infrastructures, premièrement. Mais ça, sur le plan électoral, ça paye pas. Ça payera dans 10 ans, ça. On s'en rendra compte dans 10 ans. Ah, c'était du temps de Joe Biden que ça a été voté. Mais il n'y a pas de bénéfice politique immédiat dans un pays extraordinairement court-termiste. Ensuite, il y a l'investissement dans les nouvelles technologies, les technologies de l'avenir, celles qui doivent permettre aux États-Unis de maintenir leur leadership stratégique. Vous isolez quelques domaines, robotique, intelligence artificielle, informatique quantique, sur ces domaines-là, politique industrielle. On met des dollars publics, on attire des sociétés étrangères et on subventionne les sociétés américaines comme jamais. Protectionnisme et politique industrielle. Dans un petit secteur, mais autour de ce petit secteur, qu'ils appellent la petite cour en Amérique, on va mettre une grande barrière, selon les termes employés par la Maison-Blanche. Enfin, investissement massif dans le gigantesque domaine de la transition énergétique. Là aussi, il s'agit, à coup de dollars publics, d'attirer des investissements étrangers. Lesquels investisseurs étrangers, s'ils viennent aux États-Unis, devront acheter américains pour s'équiper, mais pour faire la transition économique, la transition énergétique, pardon, la lutte contre le réchauffement climatique, investissement massif, là encore, sur 10 ou 15 ans, selon les cas, selon les possibilités de subvention, de facilité fiscale et autres. Protectionnisme, politique industrielle, tout ce que vous voulez. Mais enfin, ce sont des investissements pour l'avenir, dont on ne parle pas dans la campagne électorale. Enfin, lui va en parler pour dire voilà ce que j'ai fait. Mais là encore, il n'y a pas de bénéfice politique à court terme. C'est l'investissement d'un homme d'État. Ce n'est pas l'investissement d'un politicien. Investissement à 10, 15 ou 20 ans.
Vous avez parlé, Jean-Marie, de l'immigration qui est un problème pour Joe Biden. Pourtant, début février, il y a un texte bipartisan qui a été mis au point au Sénat, qui a été rejeté par les Républicains. Est-ce que finalement, il n'est pas suffisamment actif sur ce sujet-là, Biden ?
Non, c'est pas ça, c'est qu'il a été bloqué au Congrès. Il a été bloqué par les républicains, en effet, parce que l'intérêt des républicains qui sont aujourd'hui sous le contrôle de Donald Trump, c'est ça aussi. Ça aussi, c'est un des grands événements de la vie américaine qui est au-delà de la surprise. Parce que jamais le parti républicain ne s'était à ce point inféodé, qui plus est à un ancien président battu.
Qui n'a pas de mandat,
qui est en plus condamné pour fraude fiscale, qui est aussi soupçonné de viol, qui a pris la tête ou en tout cas encouragé une insurrection devant le Capitole aux États-Unis. Donc que les républicains se soient laissés totalement accaparer, gourouisés peut-être même par Donald Trump, c'est un des faits politiques majeurs du système. Et donc les républicains aujourd'hui ont bloqué cette affaire de la frontière avec le Mexique, parce que Donald Trump veut que ça pourrisse sur place et que toutes les images qui reviennent de cette situation soient toutes plus alarmantes les unes que les autres. Et il y aura certainement, et il y a déjà un certain nombre d'orateurs qui parlent eux aussi du grand remplacement qui les menacerait parce que la frontière avec le Mexique laisse passer des flots de migrants. En plus, avec des événements absolument tragiques, il y a le gouverneur du Texas qui a installé au cœur du fleuve que les migrants traversent des barrières toutes plus dangereuses les unes que les autres, fait non seulement de barbelés mais aussi de morceaux de métal coupants pour décourager les... Enfin, on est là dans une vision de l'Amérique qui est terrifiante et que Donald Trump entretient cela pour éviter que le problème ne trouve sa solution et que Joe Biden puisse s'en prévaloir. Donc voilà, ça fait partie de la compétition et c'est quelque chose qui, pour le moment, porte préjudice à Joe Biden.
Joe Biden, quand même, dans ce texte, en tout cas via le texte bipartisan mis au point au Sénat, est-ce qu'il est suffisamment offensif sur la question de l'immigration, Alain, selon vous ?
Les semaines qui viennent vont le dire. Comme rappelait Jean-Marie, il y avait eu un travail au Sénat, un texte bipartisan pour réglementer enfin l'immigration. Alors ce qu'on peut dire là, et c'était un texte qui donnait satisfaction à grosso modo au centre droit comme au centre gauche, qui n'était pas tout à fait acceptable pour la gauche du Parti démocrate parce qu'il comportait des mesures assez dures et qui n'était pas tout acceptable non plus pour le Parti républicain, pour l'aile droite du Parti républicain, celle qui joue sur le thème du grand remplacement. Mais enfin c'était un texte voilà qui consacrait la nécessité de lutter par des mesures, et le texte était très opérationnel, comprenait un grand nombre de mesures, grosso modo, pour diminuer drastiquement l'immigration. Il faut comprendre que pour la seule année 2023, 2 500 000 illégaux ont franchi la frontière sud des États-Unis. C'est pas rien. 2 500 000 illégaux ont franchi la frontière, souvent des familles entières, et que la situation à la frontière est totalement chaotique. Alors, je crois qu'on peut, à juste titre, dire que Joe Biden, au début de son mandat, en tout cas jusqu'au début de 2023, ne s'en est pas préoccupé. Après le texte dont j'ai parlé, les républicains l'ont bloqué. Les républicains, là où ils ont la majorité, à la Chambre des représentants, lorsque le texte du Sénat est arrivé devant eux, ils l'ont bloqué. Ils se sont dit non, il vaut mieux que le chaos continue, parce que c'est un des arguments principaux, sinon l'argument principal d'ailleurs, de Donald Trump dans la campagne. Mais enfin, on ne peut pas dire que Joe Biden s'en soit préoccupé. À vrai dire, il a confié le dossier à Kamala Harris, et dont on n'a pas eu le sentiment qu'elle l'a traité avec l'urgence que ce dossier requérait.
Il faut aussi ajouter que c'était une enquête d'ailleurs du Wall Street très récente, du Wall Street Journal très récente, qui montrait que le dynamisme de l'économie américaine appelait sans cesse des flots renouvelés d'immigrés et qu'il y a une variable, enfin, ou
nécessité, quand vous dites appeler nécessité.
Oui, une nécessité d'importation d'une main-d'œuvre immigrée qui est moins bien payée que les autres et qui est un des éléments, un des rouages d'une économie qui est repartie très vivement. Parce qu'il y a un appel, pour le coup, des entreprises américaines vers cette main-d'œuvre qui est facilement récupérable et surtout qui coûte beaucoup moins cher.
L'autre grand thème défendu par Joe Biden lors de ce discours sur l'état de l'Union, c'est l'avortement. Le Parti démocrate a réagi à la suspension de l'arrêt Roe versus Wade par la Cour suprême, en tout cas son affaiblissement. C'est une bonne stratégie, selon vous, de se positionner à ce point-là sur l'avortement. Finalement, c'est un thème qui rassemble les démocrates et divise les républicains. Est-ce que ça peut être une clé pour Joe Biden pour s'assurer le vote des femmes et des jeunes, par exemple ?
Mais ça a été déjà le cas lors des élections partielles qui avaient eu lieu et qui avait montré que l'argument portait, en effet, et que c'est un des éléments qui peut permettre à Joe Biden de rassembler à nouveau l'électorat démocrate. L'électorat démocrate qui est divisé, et qui est divisé principalement aujourd'hui, dans la partie jeune de cet électorat notamment, à cause de Gaza. Et qu'il y a aussi quelque chose qui pèse sur Joe Biden et qui le prive pour le moment du soutien d'une bonne part de ceux qui normalement le soutiennent, et qui est le fait qu'il n'arrive pas à faire plier Netanyahou. Et que, à l'inverse de l'un de ses prédécesseurs, notamment George Bush, il n'a pas sifflé la fin, l'arrêt. Quand il y avait eu une guerre au Liban, à un moment, les États-Unis ont considéré que trop, c'était trop. Et donc, ils ont arrêté les frais, contraint Israël à arrêter les frais. Là, Joe Biden a fait des déclarations sur « il faut un cessez-le-feu, il faut un cessez-le-feu », etc. Il n'arrive à rien. Et donc, ça ne peut que lui porter préjudice, parce que ça atteint même sa présidentialité. En tout cas, c'est quelque chose qui est un fort handicap pour lui, qui vient probablement aussi du fait qu'il est fondamentalement attaché à Israël et qu'il continue à vouloir aider Israël malgré un gouvernement israélien qui est devenu indéfendable. Alors il se replie sur l'humanitaire en essayant de... Il lance cette idée d'un port que l'armée américaine va construire au large de Gaza pour permettre d'acheminer une aide humanitaire qui normalement devrait être acheminée par, notamment par le nord de la bande de Gaza, mais qui est aujourd'hui bloquée par Israël.
On va revenir à l'avortement, mais restons un petit peu sur Israël et sur Joe Biden. Il a annoncé, comme vous l'avez dit Jean-Marie, la mise en place d'un port pour l'acheminement de l'aide humanitaire. Il a aussi intimé Netanyahou de laisser passer cette aide humanitaire en disant qu'on ne pouvait pas s'en servir que dans le cadre d'une guerre. Il a aussi dit qu'il travaillait sérieusement à un cessez-le-feu, Alain. Est-ce que tout ça va pouvoir suffire, selon vous, à récupérer cette frange gauche de l'électorat démocrate ? On a vu d'ailleurs des élus démocrates portaient un keffieh lors du discours sur l'état de l'Union. On sent que ça clive vraiment le parti. Est-ce que ces concessions, si on peut appeler ça des concessions, que Joe Biden fait, suffiront à rassurer les gens qui hésitent à le soutenir à cause de son soutien à Israël ?
Ce qu'il faudrait, d'une manière ou d'une autre, c'est des résultats. En août 1982, le président Reagan voit à la télévision des bombardements israéliens sur Beyrouth, en pleine ville, avec des bombes à particules en plus. Et il prend son téléphone, il appelle le Premier ministre israélien, Menachem Begin, il lui dit « Non, ça, faut arrêter ça tout de suite ». Et ça s'arrête tout de suite. Plus tard, en 1991, en octobre, le président Bush, père, convoque une grande réunion israélo-arabe, qui est sans doute le moment le plus abouti, où on a sans doute flirté vraiment avec la possibilité d'une normalisation des relations entre Israël et le monde arabe. Enfin, c'est le début de ce long processus, mais ça comportait aussi un volet israélo-palestinien. Tout le monde est convoqué à Madrid, et le Premier ministre de l'époque, Shamir, hésite, il est hésitant, il n'a pas envie de rencontrer les Palestiniens. Et le président Bush, donc je parle du père, dit « Bon, bah, dans ce cas-là, je supprime la garantie du trésor américain sur tous les prêts bancaires américains à Israël. » Et M. Shamir a immédiatement pris son billet pour Madrid. Donc, il faudrait un résultat, que ça peut être, à court terme, le cessez-le-feu dont vous parliez avec Jean-Marie, le cessez-le-feu plus l'aide humanitaire, plus la libération des otages restants aux mains du mouvement islamiste Hamas. Peut-être dans les semaines qui viennent. La négociation semble assez avancée. Elle a lieu au Caire par la médiation égyptienne avec le Qatar et les États-Unis. C'est possible. Mais il faudrait un résultat. Il faudrait quelque chose de concret pour qu'on manifeste la capacité d'influence du gouvernement américain sur un dossier clé et qui résonne très fortement aux États-Unis, comme ailleurs, comme en Europe. Alors, je ne sais pas ce que ça peut être. Ça peut être de mettre sur pied, si jamais Netanyahou est destitué, de mettre sur pied avec son prédécesseur le renouveau d'une négociation israélo-palestinienne. On n'ose plus parler de processus de paix, puisqu'il y avait beaucoup plus de processus que de paix durant les 40 années où ça existait. Mais ça peut être ça, le renouveau avec médiation américaine, notamment, mais quelque chose de concret. Ce qui passe pour un succès, entre guillemets, ben, c'est jamais un succès, compte tenu du fait que la guerre était là. Mais voilà, c'est ça que les Américains attendent. Et ce qu'ils n'aiment pas, pour revenir sur ce dont vous parliez avec Jean-Marie, ce qu'ils détestent, les Américains, même s'ils ne s'intéressent pas du tout à la politique étrangère, c'est que leur président donne une image de faiblesse, que les autres lui résistent. Ça, ils n'aiment pas ça. La complexité du dossier, peu importe. Mais il faut ça. Et vous avez là l'exemple de deux présidents républicains, c'était une autre époque, mais pas si différente, qui, eux, ont fait savoir qu'ils prendraient des mesures, que ça aurait des conséquences si le Premier ministre israélien ne suivait pas leurs conseils. Je pense que Joe Biden a dû proférer des menaces à l'adresse du président israélien, parce que tout le monde sait bien qu'il y a un pont aérien quotidien pour amener les armes et les bombes qui tombent sur la bande de Gaza. Ce sont des armes américaines qui tombent sur la bande de Gaza. Donc je pense que Joe Biden a sans doute évoqué cette question ou flirté avec, mais il l'a fait en privé, peut-être pour la raison que disait Jean-Marie, c'est ce grand respect, cet attachement à Israël, cette volonté comme ça de ne pas donner le sentiment qu'il allait blackbouler le Premier ministre israélien, dont il avait défendu le droit à répliquer après les massacres du 7 octobre dans le sud d'Israël. Donc c'est plutôt ça qu'ils attendent, du concret, que ce soit sur le plan humanitaire, avec les otages dedans, ou que ce soit éventuellement suivi par l'esquisse du début de la relance de pourparlers avec les Palestiniens.
Revenons à l'avortement et plus généralement aux libertés civiques que veut défendre Joe Biden contre les libertés plutôt individuelles que veut défendre Trump. On est sur deux manières de voir le monde. Est-ce que vous pensez que ce positionnement est audible dans les États-Unis d'aujourd'hui, Jean-Marie ? Cette défense de la démocratie libérale, finalement, qu'on voit aussi attaquée en Europe et qu'on a beaucoup de mal à défendre.
Elle est audible pour une bonne partie de l'électorat américain, pour au moins sa moitié, puisque une moitié a déjà voté pour Joe Biden et continue d'être affiliée au parti démocrate. Quelle influence ça peut avoir sur les indépendants, qui sont traditionnellement ceux qui font la différence aux États-Unis, je ne sais pas. En tout cas, je pense que le thème de l'avortement est toujours un thème très porteur. Celui des libertés, il lui fallut peut-être pour bien éclairer l'opinion américaine qu'il y ait un procès sur le 6 janvier, sur l'épisode du 6 janvier et l'assaut contre le Capitole. Parce que là, ça donnerait vraiment la vraie mesure de ce que pense Donald Trump et du respect, entre guillemets, qu'il a ou qu'il n'a pas vis-à-vis de cet aspect-là de la démocratie américaine. Alors, on a droit à des échanges où Joe Biden met cela en avant et où, par ailleurs, Donald Trump fait campagne de façon absolument hallucinante, d'ailleurs, parce que ça devrait faire rire, mais ça ne fait pas rire. C'est même pris un peu trop au sérieux, où il fait campagne sur le thème « Attention, Joe Biden va détruire la démocratie, il met en péril la démocratie ». Donc c'est un slogan comme un autre, mais qui passe à côté de la réalité de ce que prépare Donald Trump s'il était réélu, encore une fois, avec une dérive ou un virage carrément autoritaire.
Le mardi 5 mars, on a eu droit au Super Tuesday avec toutes ces élections dans les primaires démocrates et républicaines un peu dans plusieurs États. On a vu évidemment Joe Biden et Donald Trump en sortir vainqueurs sans aucune surprise. Ce qui a été plus marquant peut-être, c'est le lendemain, c'est Nikki Haley qui annonce jeter l'éponge. On va se retrouver donc avec un duel Trump-Biden. Est-ce que Biden est toujours le mieux placé pour battre Trump, comme c'était le cas il y a quelques temps dans les sondages, Alain ?
Alors Nikki Haley, c'était la républicaine qui avait osé tenir tête à Trump et qui, à l'issue de ce super mardi, où quasiment, c'est pas vraiment la fin de la campagne des primaires, mais enfin on y arrive et on sait qu'il n'y aura plus que deux candidats, Biden et Trump, elle s'est retirée, elle a été battue partout, y compris dans son propre État,
en
Caroline du Sud, sauf dans le Vermont. Mais enfin, elle a fait quelque chose qui, là encore une fois, est une première en politique américaine. C'est qu'en général, quand vous participez aux primaires et que vous considérez que vous êtes battu, donc vous cédez la place à celui qui est devant vous, celui ou celle qui est devant vous, mais vous dites à votre électorat, « Eh bien, maintenant, c'est mon candidat aussi. » Elle a dit non. « C'est pas mon candidat. J'attends qu'il fasse des offres qui me plaisent et qui aillent dans le sens où je veux aller. » Autrement dit, c'est à lui de venir chercher mes voix. Elle ne les lui donne pas. Et ça, c'est aussi sans précédent dans cette histoire. Pourquoi elle fait ça ? Parce que je crois qu'elle peut spéculer sur le fait que les mésaventures judiciaires de Trump peuvent peut-être le conduire à être obligé de se désister. Et à ce moment-là, la convention qui se réunit à l'été, la convention, elle fait ce qu'elle veut. En fait, elle fait ce qu'elle veut, mais elle prendra normalement la personne qui a participé aux primaires jusqu'au dernier moment, et c'est Nikki Haley. Et elle le prendra volontiers, d'autant plus volontiers Nikki Haley, dans cette hypothèse. Je spécule, je gamberge là, sur un éventuel retrait de Trump. Elle choisira d'autant plus facilement Nikki Haley que dans tous les sondages nationaux, pour le coup, pas dans les sondages dans l'électorat républicain, non. Les sondages parmi les Américains, dans l'électorat national, Nikki Haley écrase Joe Biden. Donc voilà ce qui s'est passé. Alors maintenant... Les sondages ne sont pas favorables à Joe Biden. Les sondages qui ont eu lieu avant le discours du président, qui est entré en campagne pour le coup là, et dont on voit qu'il est assez en forme, les sondages avant et depuis longtemps, presque structurellement, sont défavorables au président Trump. L'élection américaine... L'élection américaine a ceci de particulier, c'est que, compte tenu d'un découpage électoral extrêmement partisan, on sait, il y a peu de surprises. Et la bataille porte sur très peu d'États. On sait que la Californie vote démocrate, on sait que la Floride maintenant vote républicain, on sait que le Texas vote républicain, on sait que le Vermont vote démocrate, on sait que New York, l'État de New York vote démocrate, etc. Donc au fond, il faut se concentrer sur 6 États qui sont considérés comme des États qui changent, qui hésitent, un coup démocrate, un coup républicain.
Les swinging states.
Voilà, les États qui balancent, quoi. Hein. Alors, il y a l'Arizona. Ben, la dernière synthèse de sondage réalisée par le grand site de sondage américain Real Clear Politics, et qui a été publiée cette semaine par le Financial Times, et bien dans ces derniers sondages, cette synthèse de sondage, en Arizona, qui est un des États clés, là, Trump devance Biden de 5 points à l'élection nationale, donc le 5 novembre. En Géorgie, Trump devance Biden de 6 points. Dans le Michigan, Trump dépasse Joe Biden, alors que c'est un État démocrate, le Michigan, de 3,6 points. Dans le Nevada, Trump bat Biden de 7,7 points. En Pennsylvanie, c'est l'État où est né Joe Biden, avant de s'installer dans le Delaware. Joe Biden est un homme de Pennsylvanie. Biden l'emporte avec une avance de 0,8, c'est-à-dire ça se joue vraiment à très peu de choses. Et enfin, dans le Wisconsin, que Biden avait gagné en 2020, avait repris aux Républicains en 2020, eh bien Trump a une avance de 1 point. Ça veut dire quoi, cette synthèse? Ça veut dire que le scrutin est extraordinairement serré et que tout est possible encore, une victoire de l'un comme une victoire de l'autre. On est là dans un territoire de bataille électorale imprécise parce que terriblement serrée.
Merci Alain, merci Jean-Marie. Alain, je rappelle votre chronique chaque jeudi dans Le Monde et sur lemonde.fr. Et cette semaine, vous nous parlez de...
De la faiblesse du président Biden, de son impopularité dans les sondages et qui obère l'action des États-Unis à l'étranger, puisqu'il y a une corrélation très forte entre le national et l'international. Et donc, je parle de sa faiblesse. Il est le président qui a le plus fort taux d'impopularité depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Avec cette particularité qu'il faut ajouter, il est à 38% de taux de popularité. Trump est à peine plus populaire que lui. Trump est très impopulaire aussi. Trump est à 40%. Les autres présidents américains étaient à 50%. Jusqu'à... Et là, il y a un développement, une sorte de parallélisme. Je ne parle pas de corrélation ni de cause à effet, mais je constate que si vous croisez plusieurs dates, c'est-à-dire le moment où les Américains abandonnent les médias traditionnels pour s'informer sur les réseaux sociaux, la popularité du président chute considérablement. Aucun président américain, maintenant, ne franchit la barre de 40% au bout de 3 mois à la Maison-Blanche.
Jean-Marie, au menu de votre émission politique le jeudi sur France 24.
On aurait pu enchaîner sur l'impopularité présidentielle en France, d'ailleurs. Mais on se consacre essentiellement aux suites de la petite phrase d'Emmanuel Macron sur les troupes au sol, qui est évidemment une extrapolation et une surinterprétation de ce qu'a expliqué Emmanuel Macron.
Troupes au sol qui ne seront pas envoyées par les Américains, Joe Biden l'a bien rappelé lors de son discours.
Oui, mais encore une fois, on fait une grande confusion parce que les troupes au sol, le discours d'Emmanuel Macron visait à dire les troupes au sol, elles y sont déjà. Et elles y sont d'autant plus que le chancelier allemand l'a dit. Et donc, c'était en réponse au chancelier allemand qui avait fait une mauvaise manière aux Français et aux Anglais, disant que lui refusait l'installation des Taurus, des missiles Taurus en Ukraine, parce que pour les utiliser, il fallait des techniciens pour les servir, donc des soldats allemands pour servir ces armes, et donc qu'il y a des soldats français et des soldats anglais qui permettent aux Ukrainiens d'utiliser ces armes déjà. Et donc c'est cela la notion de troupes au sol, c'est pas le premier régiment d'infanterie de marine.
Je vous renvoie, auditeurs et auditrices, à l'épisode précédent du Monde Devant Soi dans lequel on traite largement de cette question. Merci messieurs et à la semaine prochaine.
Au revoir Christophe.
Au revoir Christophe.
Le Monde Devant Soi est un podcast produit par Slate Podcast avec Jean-Marie Colombani et Alain Frachon. Direction, production éditoriale, présentation Christophe Caron. Montage et réalisation Aurélie Rodriguez.